l'estampe peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. On dit parfois que la présence massive de cheveux blancs dans les temples est un frein pour l'accueil des jeunes. Rien n'est plus faux, selon mon invité, Iliane Gay, étudiant en archéologie et nouveau converti au protestantisme. Alors, bonjour Iliane.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
On va d'abord vous présenter. Alors, vous venez d'un milieu pas tout à fait protestant.
Effectivement, pas du tout. Mais...
Alors, vous pouvez préciser ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une maman qui vient d'une famille musulmane, un papa athée, mais qui vient d'une famille chrétienne, franco-sicilienne, bien
catholique. D'accord.
Donc je suis un peu un produit du monothéisme. Alors le protestantisme, pour moi, c'était très, très éloigné avant de m'en approcher tout seul.
Et alors, vous l'avez découvert par l'histoire, non ?
Oui. Alors, effectivement, par l'histoire, du coup, je fais des études en archéologie et je suis passionné d'archéologie et d'histoire. Et je me suis renseigné sur le protestantisme par intérêt pur, comme ça, de la religion, d'histoire des religions. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et effectivement, je me suis dit, je me renseigne, mais pourquoi pas aller un jour au temple et voir comment ça s'y passe.
Mais avant, il y avait une recherche spirituelle ou pas du tout ?
Ah oui, tout à fait, il y en avait une. Puisque, déjà avant ça, moi, j'ai pas grandi dans la foi. Donc, je m'estimais athée. Et puis, un jour, je me suis mis à croire en Dieu. Et il y a une vraie démarche spirituelle pour moi d'aller vers le protestantisme parce que j'estimais que ça correspondait bien mieux à mes valeurs, à ma façon de penser, et c'est directement relié à ma vision de Dieu et de la religion aussi.
Et alors, quelle valeur en particulier, si je peux me permettre ?
Alors moi, la première chose à laquelle je pense, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui diraient que ce n'est pas une valeur, mais l'amour, quand même.
Bah, si, c'est pas mal comme valeur, moi, je trouve.
C'est vrai.
On commence bien, là, c'est bon.
C'est vrai. Il y a des gens qui attendent plus...
La valeur du travail ou
des...
Non, l'amour, j'aime mieux, moi, personnellement.
Moi aussi. Bon. Donc, effectivement, l'amour de l'autre, mais un véritable accueil, donc un véritable amour.
Ouais.
Et pas un rejet pour des questions, on va dire, anodines. Et puis la solidarité aussi. J'y pense beaucoup. La solidarité, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans toutes les paroisses, dans toutes les églises. C'est une mentalité aussi qu'on doit avoir. On pourrait dire la charité, la charité chrétienne, mais je pense que la charité, ça doit concerner toujours lié à un regard qu'on porte sur l'autre, en fait. Un regard souvent qui permet à l'autre aussi d'exister à travers nous. En tout cas, voilà, moi, je pense que c'était des choses primordiales à retrouver dans une communauté, en fait, religieuse.
Et vous êtes venu directement au protestantisme ou vous avez louvoyé, si on peut dire ?
Ah ben, j'ai louvoyé, oui. Je ne suis pas du tout allée directement vers le protestantisme, puisque je suis d'abord allée vers ce que je connaissais, c'est-à-dire le catholicisme.
Ouais.
Donc, je suis d'abord allée dans une église catholique, dans la paroisse de Montpellier. Et puis j'ai carrément fait un an de catéchuménat avec l'église catholique. Ça ne m'a pas du tout plu. Après, il se trouve que l'approche n'était pas forcément super. Là où j'ai fait du catéchuménat, j'imagine que ce n'est pas partout pareil. Mais en tout cas, ça ne m'a pas plu et je sentais qu'en fait, ce n'était pas pour moi. Qu'il manquait quelque chose... théologiquement déjà, et puis dans notre approche aussi des textes. Et en même temps, l'approche des textes, c'est fondamental, hein, puisque c'est à partir de là aussi qu'on construisait au catéchuménat notre regard sur la foi.
Donc le catéchuménat, c'était une sorte de, comment dirais-je moi, d'apprentissage pour rentrer dans l'Église catholique. Et donc, ça n'a pas collé. Et l'archéologie là-dedans, puisque vous êtes archéologue, comment ça s'articule ?
Et alors, l'archéologie, du coup, bon, moi, ça fait 3 ans que je fais des études d'archéologie. C'est vraiment ma passion, enfin, histoire, archéologie, c'est vraiment ma passion. Et petit à petit, avec cette démarche de foi qui était derrière, j'ai fini par lier les deux, en fait, puisque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des textes, des écrits du monothéisme. Et en fait, il n'y a pas de ça sans histoire et sans archéologie. C'est devenu aussi progressivement quelque chose qui me passionnait beaucoup. L'archéologie, l'histoire des textes.
L'archéologie, c'était quelle période ?
Alors,
passé, quelle période ?
Alors, moi, je suis médiéviste, donc archéologie et histoire du Moyen-Âge, c'est ce qui me passionne le plus. Après, effectivement, en m'intéressant à la Bible et à l'histoire de la Bible, je remonte, du coup. Et ça me plaît aussi beaucoup d'être notamment l'Antiquité juive, etc., ou dans les sociétés juives en Antiquité.
Oui, de toute façon, dans les études d'histoire ou dans les études d'archéologie, je suppose que c'est la même chose. Il y a la méthode, en fait. On est spécialisé dans une période, mais en fait, on a des méthodes de compréhension des textes, de critique des textes. Et je retrouve là des éléments, effectivement, en tant qu'historienne. Et donc, cette étude donc, du Moyen-Âge, en quoi elle peut concerner, en quoi elle peut vous aider à comprendre le protestantisme qui est arrivé après, puisque le protestantisme arrive au XVIe siècle, et donc après le Moyen-Âge.
Tout à fait. Alors là, vous me tendez une belle perche parce que effectivement, on a souvent tendance à se dire parce que bon, la réforme, on voit ça et Martin Luther, etc., comme un moment de rébellion contre l'Église, souvent avec cette idée, il fallait que ça arrive au bout d'un certain temps. Moi, je pense sincèrement que la réforme de Martin Luther, c'est jamais que l'aboutissement de déjà beaucoup de révoltes au Moyen-Âge contre l'Église. Déjà de base pour moi, le christianisme et même les croyances, j'ai fini par aborder ça et par découvrir ça au travers du Moyen-Âge en fait. Donc, et puis en plus de ça, du coup, je suis bien placée pour savoir que effectivement, le parcours de l'Église, il n'est pas tout propre, il n'est pas tout lisse, et que la réforme protestante, déjà d'abord de Luther. C'est pas d'un coup comme ça.
Bien sûr. Oui, c'était amené par des réformes aussi, enfin par des rébellions,
oui.
comme vous l'avez dit.
Tout à fait.
Et il y avait une sympathie par rapport à ces révoltes chez vous.
Oui, tout à fait. Oui. Il y en a une grande. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Peut-être travailler dessus plus tard, je sais pas. Mais cette question, effectivement, des mouvements qui vont contre l'Église ou en tout cas, pas l'idée d'un Moyen-Âge où tout le monde est toujours d'accord avec l'Église et où tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
Eh bien, on pourra vous retrouver, là on va continuer bien sûr, mais on pourra, disons, approfondir ce thème de mouvement contre l'Église dans une prochaine émission. Ça peut être très intéressant. Alors, vous venez au protestantisme, comment ça se passe ?
Alors, moi,
vous poussez la porte du temple comme ça, il faut déjà que ça soit ouvert, parce que les temples ne sont pas ouverts dans la semaine, enfin, c'est parfois un peu compliqué quand on ne connaît pas.
C'est vrai. Alors, en vérité, ma première approche du protestantisme, ça n'a pas été d'aller au temple un jour où c'était ouvert, ça a été de rencontrer la pasteur Emeline Daudet, de Montpellier, puisque j'avais entendu parler d'elle.
Ouais.
Et que j'avais très, très, très envie de la rencontrer. Et en fait, un jour, n'y tenant plus, je l'ai contactée.
Ouais.
Et je l'ai rencontrée. Et c'est là, pour la première fois, du coup, que je suis vraiment rentrée dans un temple, déjà, pour la rencontrer. Et que j'ai vraiment été amenée à découvrir le protestantisme purement...
Réformé.
Ouais, réformé. Ouais, ouais.
Et alors, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans le protestantisme réformé ? Alors, c'est les textes, c'est la... Enfin, qu'est-ce qui vous a plu ?
Alors, bien sûr les textes, mais finalement aussi, je pense que c'est une question beaucoup de mentalité. Je trouve que le protestantisme réformé, après souvent je m'estime assez luthérien, mais apporte une dynamique ou impose peut-être une dynamique assez croyant. Alors bon, on va me dire, c'est pas systématique, bien entendu, mais c'est ça qui m'a le plus plu aussi. C'est la mentalité que j'ai trouvée là-bas, et notamment, par exemple, il n'y a pas de peur à se confronter à la Bible, au texte de la Bible. Alors ça, c'est très protestant aussi, les études bibliques un regard sur la Bible permanent. Mais honnêtement, ça, faut pas croire que c'est dans tous les milieux religieux chrétiens. Et c'est des vraies études bibliques. Moi, ce dont j'ai été impressionné, du coup, pour répondre à la question, c'est quand même de voir que Emeline organisait des sortes de, Moi, je vois ça presque comme une conférence, en fait, où, en fait, elle invitait des chercheurs, elle réunissait les gens de la paroisse et même d'autres qui voulaient venir parler de ça, des chercheurs sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau ou l'Ancien Testament,
Bien sûr.
Qui allaient nous parler de la Bible, comme ça, où on allait poser des questions. Là, il y a un vrai échange, là, il y a une vraie étude biblique, pour moi, avec une approche scientifique.
Oui, bien sûr.
Rien à voir avec le catéchuménat, pardon, on a 2-3 bénévoles qui nous disent ce qu'ils veulent. Ouais. De la Bible, en fait.
D'accord. Et le fait que Emmeline soit une femme, est-ce que ça vous a, venant d'un côté de la religion musulmane et de l'autre côté du catholicisme, au moins par vos parents, est-ce que ça vous a choqué au départ? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que...
Alors moi, je suis allée vers Emmeline justement, alors je ne veux pas la réduire au fait que c'est une femme, bien sûr, mais je suis allée vers Emmeline déjà pour ça. Parce que moi, alors pour être honnête, moi l'islam, c'est vrai que je ne connais pas assez.
D'accord.
C'est vrai que je n'ai pas été éduquée dans la religion globalement. Je connais beaucoup plus le catholicisme. Moi, j'ai fréquenté en plus l'église catholique. Ce que je sais, c'est que peut-être qu'une des premières choses qui m'a sauté aux yeux à l'église catholique, c'était l'absence des femmes au même poste que les hommes. Mais c'est vraiment, ça m'a choquée, à tel point que j'arrivais même plus à aller à la messe ou quoi. Parce que je me dis, mais où sont les femmes en fait, quand je regarde l'autel? Je suis allée vers Emmeline parce que c'est une femme aussi, parce que ça fait partie du fait que c'est une femme qui est pasteur, qui est bien obligée aussi de s'imposer dans son milieu et qui le fait, en fait, qui a dû avoir ses doutes, ses peurs, j'imagine, mais qui est là et qui dit oui, je suis une femme et oui, je peux vous enseigner et peut-être même qu'on peut apprendre des choses ensemble. Et moi, c'est peut-être...
Alors, à Montpellier, effectivement, les femmes pasteurs, on connaît, puisqu'il y a aussi Ingrid, donc Ingrid Pratt dans le secteur Mérivigne, il y a eu Florence Blondeau, enfin, je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a, et dans le protestantisme, effectivement, vous devez savoir qu'au Conseil national, c'était Emmanuelle Sebold qui était présidente donc, de l'Église. Elle a fini son mandat depuis peu. Alors, votre découverte principale, on va creuser maintenant le vif du sujet, c'est Jésus. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous plaît en lui? Parce que Jésus, c'est quand même un personnage un peu lointain. Qu'est-ce qu'il a de moderne? Qu'est-ce qu'il a de... Tout à l'heure, on parlait de génération, là, en rigolant sur les téléphones. Vous êtes d'une jeune génération. Jésus, là-dedans...
C'est vrai qu'il paraît complètement lointain.
Oui.
Parfois, on pourrait se dire un peu has-been. Alors, moi, je trouve que... ce qui m'a frappé chez ce personnage, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est qu'effectivement, je le trouve révolutionnaire. Mmh. Ce que je précise à chaque fois, c'est que ça pourrait paraître anachronique de parler comme ça d'un homme d'il y a 2000 ans, mais je trouve pas du tout, parce que il est révolutionnaire, peut-être bien plus que ce qu'on pense, mais ça a pas pu passer outre. Ils ont pas pu passer outre dans les textes, visiblement. Déjà, par exemple, moi j'aime bien dire qu'il va vers tout le monde, vers les hommes, vers les femmes, même quand ça se fait pas forcément à son époque dans ces sociétés-là. Ça, c'est un premier point qui m'a énormément marqué chez lui. Il a quelque chose d'assez anticonformiste aussi.
C'est certain.
Il a pas peur aussi de se prononcer sur tout un tas de sujets, et c'est très politique, je le défendrai toujours. Il a quelque chose où il est un peu touche-à-tout sur des sujets de la société, les femmes les premières. Il a des femmes disciples. Il invite les femmes à enseigner. Moi, je suis tombée amoureux. En fait, on pourrait dire je suis tombée amoureux du personnage historique, mais plus que ça, ça a éveillé quelque chose en moi que j'appelle la foi.
Et alors vous ne pouvez pas lire la Bible tout seul. Vous auriez pu découvrir Jésus et puis dire « je vais lire la Bible tout seul ». Non, il y a eu besoin d'une communauté.
Oui, alors en fait, moi, plus exactement, je pars du principe que se dire qu'on peut lire la Bible tout seul, sans souci et tout comprendre... Bah déjà, je pense que c'est super dangereux comme idée.
C'est un peu orgueilleux aussi.
Ouais, je le pense. Je pense que c'est orgueilleux, que c'est prétentieux. Et puis que, en fait, c'est ce qui amène à beaucoup soit de mauvaises interprétations des textes, soit juste prendre ce qu'on veut dans les textes. Et moi, d'abord, c'était tout seul en me renseignant sur des personnes, des chercheurs, des chercheuses qui travaillaient là-dessus. Et puis après, ça a été avec des gens, des vrais gens dans la vie... avec qui on parlait des textes, on y était confronté, on y réfléchissait, toujours souvent encadré par des chercheurs ou des chercheuses aussi. Et du coup, je remercie à nouveau Emmeline pour ça. Mais en tout cas, oui, la Bible tout seul, bah, même, je vais être même honnête, moi j'ai essayé de l'aborder un peu tout seul, la Bible. J'ai été choquée plus qu'autre chose. En fait.
Oui, oui, oui. Puis c'est très compliqué de savoir aussi comment l'apprendre. Moi, je connais des gens. Mmh. Ben je connais une autre personne qui va aussi témoigner à ce micro, qui vient de l'islam, et qui m'a dit qu'il avait lu la Bible du début jusqu'à la fin. J'ai commencé de la page 1 jusqu'à la page je ne sais pas combien, parce qu'il y en a des pages. Il faut le faire quand même, parce que ce n'est pas toujours très, très intéressant, surtout quand il y a des généalogies. Alors, on a parlé au début donc, de présence de cheveux blancs, et j'ai dit que ce qui est vrai, c'est que dans les temples réformés, luthéro-réformés, il y a beaucoup de cheveux blancs. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux pas blancs. Donc, mais pour vous, ce n'est pas un problème, vous m'avez dit.
Oui, bien sûr. Alors attention, même pour ce que je vais dire, moi je peux que être content et inviter des jeunes qu'on aurait envie à venir au temple ou même à s'impliquer s'ils le veulent dans des communautés religieuses, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, moi ça n'a pas du tout été un problème et j'ai même été agréablement surpris d'être avec des personnes qui étaient quand même assez âgées et qui étaient bien plus ouvertes que beaucoup de jeunes de mon âge et de ma génération, en fait. Et ça, je peux le dire notamment parce que je viens de l'Église catholique, où j'en ai vu passer des jeunes qui étaient super conservateurs, en fait. Hein, ça se résume bien avec ce mot-là. Moi, je suis arrivé quand même... Puis avec cette idée derrière que, oui, bon, les personnes âgées, les vieux, machin, ils comprennent rien, ou ils vont être racistes, ou ils vont être ceci. Moi, je suis arrivé dans un milieu, effectivement, luthéro-réformé, où il n'y avait pas de jeunes. D'accord ? Mais il n'y avait pas une personne pour être raciste, il n'y avait pas une personne pour être sexiste, une personne pour être homophobe ou autre. Et quand il y avait des choses, effectivement, c'était travaillé, il y avait une vraie remise en question. Je pense que ça détruit des idées reçues aussi, sur une vieillesse qui se sentirait toujours dépassée. Je pense que parfois, c'est ma génération qui se sent dépassée.
Et alors, vous rencontrez ces gens, ces protestants, ces vieux protestants pour la plupart, est-ce qu'ils parlent de leurs doutes? Parce que vous avez parlé que vous avez fait un séjour dans l'Église catholique et qu'on vous a asséné des vérités. Est-ce que vous avez trouvé ces vérités dans le protestantisme, à savoir, on est sûr que Dieu a créé le monde, on est sûr que, etc., on est sûr d'eux, etc. Est-ce que vous avez rencontré ces certitudes?
Alors, vous dites vraiment tout ce qu'il faut, parce qu'effectivement, c'est peut-être une des choses que j'ai trouvées les plus belles et qui m'a attirée, qui m'a plu, c'est que j'étais face à des gens qui avaient des doutes et qui n'avaient pas peur de le dire. Non seulement ils avaient des doutes, ils les disaient, et c'était bien accepté. Et en fait, c'était le but aussi, notamment d'un pas de côté, le programme d'Emeline Daudet qu'elle organise.
Ouais.
C'était donc, en fait, de ne pas avoir peur de parler de ses doutes, de poser des questions, de dire ça, j'en sais rien, ça me paraît bizarre, ça machin. Et le doute, je pense que c'est la principale source de dynamisme dans le protestantisme, mais pas que, en fait, même dans la vie.
Et alors, vous parlez de cette rencontre-là avec Emeline Daudet, là, c'est, comment vous dites, un pas de côté?
Un pas de côté, oui.
Ça existe toujours?
Ça existe toujours.
Eh bien, vous pouvez nous donner quand est-ce que ça a lieu?
Alors, je dis ça existe
là,
toujours.
Là, c'était une colle.
Ah oui, alors, parce que cette année, normalement, je crois que... j'ai peur de dire une bêtise. Normalement, je crois que ça continue.
Bon, ben, on va dire aux gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés de se renseigner auprès de... C'est la paroisse de...
Jacou.
De Jacou. Et de regarder et éventuellement de téléphoner pour demander des renseignements sur cette émission Un pas de côté. Enfin, sur émission, moi je suis dans la radio.
Oui.
sur cette rencontre qui s'appelle Un pas de côté et où les gens peuvent parler de leurs doutes, de leur, de ce qu'ils ressentent. Et alors... la tradition là-dedans, parce que vous êtes un historien, vous étudiez l'histoire. Comment vous voyez la tradition?
Alors, la tradition, je m'en méfie souvent, moi, parce que on essaye de justifier souvent beaucoup de choses avec la tradition. Bon, déjà, je m'en moque. Les choses, elles changent. C'est le propre de la vie, le changement. Et puis, plus que ça, on crée toujours des nouvelles traditions. On crée certainement des choses qui seront des traditions dans 1000 ans. Je me méfie surtout de l'argument de la tradition. Je suis toujours intéressé, moi, avec cette formation d'historien, par les traditions, les étudier, voir à quel point elles impactent les cultures, en fait. Par contre, les reprendre comme je le veux et justifier des choses dans le monde, en fait, par la tradition, non, ça me ressemble pas.
Oui, surtout qu'on peut toujours trouver une tradition qui s'oppose à la tradition que... C'est comme quand on joue avec les textes bibliques pour justifier une position. On arrive toujours à trouver dans la Bible une position contraire. Hein,
oui, oui.
Un verset contraire. Donc, et alors, la théologie, qu'est-ce que ça vous apporte? On a parlé de la tradition, on a parlé de l'histoire. Qu'est-ce que ça vous apporte, la théologie pure?
La théologie pure, ce que ça m'apporte, moi personnellement... Encore une fois, je me répète, c'est de ne pas avoir peur de me confronter au texte, de même prendre un plaisir à étudier les textes, à chercher les interprétations. Ouais, je dirais, ouais, en fait, ça se résume à ça. En fait,
et alors, vous pouvez nous donner un exemple de texte auquel vous êtes cogné? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des textes on n'aime pas trop, quoi. On se dit, bah tiens, et puis il y a des pasteurs qui justement choisissent de les prendre pour sujet de prédication et on se cogne littéralement dedans. Et alors vous, c'est quoi?
Alors moi, je vais prendre un, il y en a plein, mais il y en a un, je vais le prendre parce que pour le coup, c'est depuis tout petit qui me travaille, qui me chagrine ce texte.
Ouais.
C'est Abraham qui va tuer,
oui.
Pardon.
Qui va sacrifier.
Qui va éventuellement sacrifier son fils.
Ouais.
Et ça, depuis tout petit, c'est un texte qui me révolte, qui me débecte même.
Ouais.
Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête de papa. Je ne comprends pas Dieu non plus, parce qu'il y a l'idée d'une preuve de l'amour d'Abraham pour Dieu. Enfin, depuis tout petit, c'est un texte qui me chagrine beaucoup. Et là, justement, j'ai écouté, ça fait quelque temps, j'ai écouté l'émission de Babette Soulier La Porte.
La Bible, un parfum de scandale.
Qui est une émission géniale. Et
qui est effectivement enregistrée chez nous et diffusée, puisque Babette fait partie de notre staff d'animatrice. Et alors, Ingrid Pratt, donc. Ou alors, c'était peut-être Luc-Olivier Bossé.
Et là, c'était Luc-Olivier Bossé pour le coup, qui avait travaillé sur cette thématique-là,
ouais.
Avec Babette, donc sur Abraham, et Abraham, notamment, ce sacrifice qui s'apprête à faire. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Encore une fois, déjà, ça fait du bien de pas avoir des pasteurs qui ont peur, déjà,
ouais.
de se confronter à ça
ouais.
devant un public, déjà.
Ouais.
Et puis, voilà, de nourrir en interprétation, en linguistique aussi, puisque c'est très important de s'intéresser à la linguistique, à la question des traductions des textes, qui sont des textes anciens, avec des langages anciens. Et donc, oui, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a apporté beaucoup d'interprétations et un champ de vision un peu plus élargi quand même sur ces textes et sur cette histoire.
Alors, je renvoie les auditeurs qui seraient intéressés à aller sur le site de la radio et à taper la Bible à parfum de scandale, Abraham. Je suppose qu'ils trouveront ils trouveront le texte. S'ils ne le trouvent pas, qu'ils s'adressent à la radio pour avoir les liens pour ce texte. Et alors, donc, vous aimez la théologie? Donc, vous voulez des pasteurs théologiens, un pasteur animateur, même gentil animateur sympa, ça ne vous suffit pas?
Ben oui. C'est peut-être un défaut d'ailleurs, hein, de ma part. Oui, je pense que ça ne me suffit pas, mais dans le sens où j'ai besoin de ça, en fait. Je crois que j'ai besoin de cette partie un peu qui vient mettre à mal, j'ai même envie de dire, notre intellect, qui vient nous bousculer, qui vient nous parler. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est une question de beaucoup de recherche sur les textes. Alors après, c'est, encore une fois, c'est peut-être un défaut de ma part. Mais c'est ce qui m'anime aussi. Hein, je ne suis pas là aujourd'hui pour rien, je ne démarre pas cette émission que je vais démarrer pour rien. Donc effectivement, souvent, c'est ce que je recherche chez un pasteur ou une
pasteur. Oui, alors on va... justement, ça va faire la transition, mais avant, je vais quand même dire que ce n'est pas un défaut chez vous, notamment que Guyenne Antier, qui est le doyen de la faculté de théologie protestante de Montpellier et qui va participer à une émission qui s'appelle « Faut-il supprimer les théologiens protestants ?» sera certainement très heureux de vous entendre. Alors, on va arrêter donc sur votre expérience de protestant, qui a été très intéressante. On va parler, puisque vous venez de le dire, vous allez animer une émission ici à notre radio. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission?
Alors, cette émission, elle s'appelle « Au commencement était la fouille ». L'objectif de l'émission, c'est de venir un petit peu s'introduire à une discipline en archéologie qui s'appelle l'archéologie de la Bible, même si c'est un terme aujourd'hui qui n'est pas forcément encore utilisé par les chercheurs. En tout cas, c'est venir là directement confronter l'archéologie et les textes de la Bible, autant de l'Ancien Testament que du Nouveau. Pour préciser un petit peu, ça peut être autant, par exemple, s'intéresser, je ne sais pas moi, aux chroniques de la Bible, quand on nous dit que en telle année, tel roi a fait construire telle chose, en archéologie par exemple,
ah
on
oui.
va venir voir, s'intéresser à ça, savoir si effectivement à tel endroit, je ne sais pas moi, à Jérusalem, a été construit telle chose, etc. C'est venir confronter les deux disciplines, je vais dire études et lectures de la Bible et puis archéologie. Mais ça peut être aussi la découverte de manuscrits. Je le dis quand même, effectivement, souvent on a tendance à séparer l'historien de l'archéologue, l'historien travaille sur les sources textuelles et l'archéologue, lui, sur des sources matérielles. Mais effectivement, on oublie que c'est très rare. Mais ça arrive quand même de retrouver archéologiquement des sources textuelles. Bon, c'est le cas des très fameux manuscrits de Qumran. Mais c'est aussi grâce à l'archéologie que parfois on retrouve certains textes. Et ça vaut notamment pour des textes de la Bible, des canoniques ou des apocryphes.
D'accord. Donc, vous allez nous dire si les choses qui sont inscrites dans la Bible, on retrouve les traces sur le terrain.
En fait, c'est ça. La question, c'est pas de donner, de dire que absolument on a des certitudes, mais juste de montrer qu'en fait, il se passe quelque chose entre les deux.
Et alors, vous allez le faire tout seul, vous allez interroger des gens. Comment ça va se passer, cette émission?
Donc le premier épisode, je le fais seul. Mais les autres épisodes, j'aimerais beaucoup inviter des chercheuses, des chercheurs qui seraient disponibles. Ça peut être aussi, s'ils le souhaitent, des doctorants ou des masterants, à qui on donne peut-être pas assez la parole sur leur sujet de recherche, je trouve. Donc voilà, en histoire et archéologie des religions.
Alors, votre première émission sera diffusée le 25 septembre à 13h20. Donc, j'invite les auditeurs à retenir cette date, 25 septembre à 13h20. Et ensuite, ça aura lieu tous les quatrièmes vendredis du mois à la même heure. Donc, quatrième vendredi du mois à 13h20, au commencement, était la fouille. Il reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux auditeurs pour venir vous écouter, enfin pour vous écouter?
Alors, je souhaiterais dire une chose, c'est que, bon voilà, moi j'espère que, bien sûr, l'émission, elle plaira, j'espère que j'arriverai à être à la hauteur aussi des attentes d'un public curieux, mais je souhaite quand même dire d'entrée aux gens, aux auditeurs, aux auditrices, de pas avoir peur à remettre en question aussi ce que je dis. C'est important, ça c'est une, je pense c'est une vraie démarche scientifique déjà, la remise en question et de douter à nouveau. Voilà, je pense que c'est très important de ne pas hésiter à douter de ce que je dis, aller se renseigner, toujours se renseigner sur les sources utilisées. Je pense que l'objectif de l'émission ce sera ça aussi, c'est d'inviter à cette démarche-là.
Vous avez déjà fait de la radio, donc vous êtes confiant
Bien sûr, je suis un peu stressée quand même.
D'accord. Bon, ça va vite passer. Mmh. Eh bien, il me reste à vous remercier, Iliane, donc pour ce témoignage et puis pour cette émission qui va commencer. Donc, je répète, au commencement était la fouille, tous les quatrièmes vendredis du mois, la première, le 25 septembre, 13h20. Merci donc à vous.
Merci
à vous. Et puis, merci à nos auditeurs de leur fidélité. Au revoir.
Au revoir.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.